Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pas touche aux petites lignes, elles ne seront pas fermées. Édouard Philippe a écarté cette éventualité ce matin en présentant les grandes pistes de la réforme de la SNCF. On ne décide pas, dit le Premier ministre, de la fermeture de 9000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables. Dans bien des territoires, le rail est au cœur de la stratégie des régions pour le développement des mobilités. La carte ferroviaire va donc rester inchangée. La modifier aurait pu s'avérer d'autant plus coûteux pour le gouvernement qu'il est soupçonné de privilégier les habitants des villes à ceux du monde rural. Et ce qui est valable pour le train l'est également dans d'autres domaines. Il est question par exemple de revoir cette année la carte judiciaire afin de redistribuer le service public de la justice, ce qui pourrait passer par des fermetures de tribunaux. Carte sanitaire également avec les hôpitaux et la question des déserts médicaux. Carte scolaire, plusieurs syndicats dénoncent des fermetures de classes à la rentrée prochaine en milieu rural pour permettre leur dédoublement dans les zones prioritaires. Autant de décisions politiques qui nécessitent d'avoir une connaissance fine des terrains sur lesquels elles s'appliquent, c'est bien le rôle de la cartographie. Mais cet instrument est-il toujours aussi neutre qu'on veut bien le croire? La politique est-elle un jeu de cartes? Et à quoi servent plus largement les cartes en politique? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir en compagnie de deux invités. Hervé Lebras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes démographe et historien, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez publié l'an dernier chez Actes Sud « Malaise dans l'identité ». Et puis 3 ans auparavant, c'était aux éditions Autrement, un atlas des inégalités. Ce qui vous fait un point commun avec notre deuxième invité, qui lui aussi a publié dans cette collection, Jacques Lévy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'atlas que vous avez signé donc toujours chez Autrement et c'était l'an dernier, c'est un atlas politique de la France. Je renverrai également à un ouvrage de 2013 chez Fayard, Réinventer la France. Alors avec vous deux, je voudrais qu'on commence par parler de la carte ferroviaire. Vous avez sous les yeux l'un et l'autre, je vous en ai imprimé une chacun, la carte du réseau ferré français, carte simplifiée qui est publiée par la SNCF. Moi j'aimerais d'abord savoir ce que vous voyez l'un et l'autre quand vous voyez cette carte. Est-ce que vous y voyez, Hervé Lebras, l'offre actuelle en termes de transport ferroviaire, ou bien est-ce que vous y voyez plutôt quelque chose, parce que vous êtes historien, qui raconterait ce qu'a été, à un moment donné, l'histoire de l'aménagement du territoire en France?
Oui, vous avez raison en grande partie. C'est surtout, à nouveau, ce qui frappe, c'est la centralisation. C'est-à-dire que y a un faisceau énorme qui part de Paris et quand on regarde ensuite, on voit assez peu de transversales. Donc là, c'est une caractéristique typique du système français. Ceci dit, au fond, cette cartographie ne dit pas tout ce qu'on voudrait savoir, d'une certaine manière, sur le chemin de fer. On voudrait savoir les durées, les temps de trajet, parce que, par exemple, pour aller à Auxerre, qui a l'air d'être près sur la carte, en venant de Paris, ça vous prend plus de temps que pour aller à Lyon, et pratiquement plus de temps que pour aller à Strasbourg ou à Rennes. Donc, vous voyez, il y a déjà une question de durée du trajet qui devrait être d'une certaine manière cartographiée, et puis la fréquence aussi. Et j'aurais bien aimé que sur cette carte, on voit avec des gros traits là où il y a beaucoup de personnes qui passent, et puis des traits très fins qui montreraient justement les voies secondaires.
Donc une carte extrêmement simplifiée. Jacques Lévy, vous y voyez la même chose?
Oui, c'est vrai que, enfin, je reprends au vol votre suggestion de tout à l'heure quand vous disiez que c'est au fond une mémoire de l'histoire aussi des mobilités. Il y a eu, je crois qu'il y a eu à un moment 60 000 km de voies en France parce que, en fait, avant la motorisation individuelle, c'était le seul moyen accessible à tous pour voyager de façon motorisée, je dirais. Donc, il y avait, comme la France à ce moment-là avait très largement des densités rurale assez forte, eh bien, il y avait une couverture capillaire, on peut dire, du territoire. Et donc, ça correspondait à une logique, je dirais, de desserte et même de développement. Alors que aujourd'hui, on a les traces de cette époque-là. On pourrait dire que le statut des cheminots, c'est aussi une trace de cette époque-là, non spatiale. Mais donc, c'est vrai que quand on regarde n'importe quel phénomène social, on a une accumulation de couches historiques qui se sont plus ou moins articulées, plus ou moins sédimentées, plus ou moins fossilisées.
Est-ce que vous diriez, comme Hervé Lebras, que c'est une carte qui est assez pauvre en information, en tout cas trop pauvre, par exemple, pour à sa lecture se dire, bah voilà quelles lignes devraient être renforcées, puis quelles lignes devraient être abandonnées?
Hervé Lebras a complètement raison. Si on ne choisit pas les bonnes métriques sur une carte, c'est-à-dire les bons instruments de mesure de la distance, on peut passer à côté des problèmes. Hein. Et donc effectivement, les distances-temps sont plus importantes, en tout cas à bien des égards, que les distances en kilomètres. Donc le fait qu'on ne les ait pas sur cette carte, c'est un peu ennuyeux.
Alors, j'ai une bizarrerie dans la... Jacques a tout à fait raison de dire que les densités ont beaucoup changé en France. La France était relativement pleine, la France rurale. Mais alors on pourrait se dire que la population s'est concentrée sur les grands axes et dans les grandes villes. Quand on fait la carte des densités actuelles, on voit apparaître la carte des fleuves. Et au fond, quelque chose de tout à fait archaïque, mais parce que la plupart des villes sont sur le bord des fleuves. Donc à la limite, on aurait dû au fond développer les transports fluviaux.
Oui, puisque cette donnée-là semble si essentielle. Alors, faisons l'hypothèse, Hervé Lebras et Jacques Lévy, que la SNCF vous appelle et vous dise, voilà, bah, écoutez, nous, on est confrontés à des choix à faire, justement, pour renforcer certaines lignes et peut-être pour en abandonner certaines, mais on aurait besoin d'une carte qui nous aide dans la décision. Comment est-ce que vous vous y prendriez pour élaborer une nouvelle carte qui aide la SNCF à cette décision? Qu'est-ce que vous lui demanderiez peut-être d'abord?
Bon, je lui demanderais beaucoup d'informations, un peu celles que j'ai citées au début, sur la fréquentation, sur les durées, sur le type de train qui compte mettre. Mais justement, je dirais à la SNCF, ce n'est pas une carte que je vais vous donner, c'est peut-être 10 cartes différentes, puis ça sera à vous d'essayer de pondérer, parce que moi je peux faire un travail qui est un travail de défrichage ou un travail de recherche, mais c'est à eux de décider, et il faut laisser à ceux qui ont les décisions à prendre, il faut leur laisser, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est nous qui allons décider avec notre matériel cartographique ou statistique. Il faut leur ouvrir des possibilités.
Sauf que si l'objectif, par exemple, c'est de faire des économies budgétaires, de se dire qu'il y a certaines lignes qu'il va falloir qu'on abandonne, les cartes que vous allez produire et ce qu'elles vont dire, la façon dont vous allez les produire, risque d'avoir une influence sur la décision finale.
Elle aura d'autant moins d'influence qu'il y aura plus de cartes et qu'il y aura plus de critères qui seront montrés. Justement, il faut absolument, au fond, il faut que si j'étais amené à faire ça, il faut que je me dégage du fait d'être devenu responsable ou de devenir responsable d'une orientation des choix. C'est pas toujours possible, bien sûr, mais d'une certaine manière, j'ai aucun intérêt très précis dans la SNCF, donc...
Jacques Lévy, vous feriez la même chose. Je continue dans la même direction. C'est d'autant plus vrai que ça pose des problèmes politiques, et donc les problèmes politiques, ils doivent être traités par les citoyens. Vous disiez, on est à enveloppe constante, et on se demande sur quoi on met l'accent. Bon, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui s'est passé depuis justement cette carte des années 20 ou 30 de la population, de la répartition de la population française? Ben, il s'est passé deux choses, c'est-à-dire qu'il y a eu un renforcement des pôles urbains, avec aussi sa partie périurbaine, hein, qui fait partie de ce renforcement des pôles. Et puis, il y a eu une meilleure communication, une meilleure demande de communication entre ces pôles. Donc, on aurait pu croire... Hein, que y aurait une diffusion généralisée. C'était le projet d'un Melvin Weber aux États-Unis qui parlait de non-place urban realm, c'est-à-dire d'un monde urbain sans lieu. Ce qui était en train de devenir Los Angeles ou les villes du sud-ouest des États-Unis, alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un renforcement des polarités sur les grandes villes, mais ces grandes villes sont elles-mêmes très bien reliées ensemble et souhaitent l'être. Il y a une dimension télécommunication, mais il y a aussi une dimension mobilité. Et donc, qu'est-ce que c'est la demande sociale dans ce contexte? Ben, c'est améliorer les transports intra-urbains pour que tous les gens qui habitent dans de grandes agglomérations puissent se réunir, se rencontrer sans que ça leur prenne trop de temps ou d'argent. Et puis d'autre part, améliorer les transports interurbains. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on ait eu deux phénomènes assez nouveaux en France, le TGV, qui avait commencé au Japon, et le tram. Donc cette dynamique-là, elle ne me semble pas, je dirais, pathogène ou dangereuse.
Et la demande sociale, ça peut être aussi d'avoir... Alors justement, j'allais venir aux petites lignes, c'est-à-dire la demande sociale, ça peut être aussi considéré qu'à partir du moment où il y a un public, même réduit sur une zone territoriale, il doit avoir accès de manière identique à n'importe quelle autre personne de la population française à un service ferroviaire, par exemple.
Ça paraît tout à fait logique que la mobilité, disons, soit un bien public, hein, donc qui n'exclut pas des consommateurs. Mais par exemple, quand on voit que les petites lignes dont on a beaucoup parlé, qui captent 2 milliards sur les 10 milliards et demi que donne l'État sur 2% du trafic, mais là-dedans, il y a trois quarts des trains qui ont moins de 50 passagers, c'est-à-dire en gros la capacité d'un bus. Personnellement, je ne vois pas en quoi l'idée de bien public de mobilité serait mise en cause si c'était un bus plutôt qu'un train. Hein. Je veux dire, tout le monde trouve normal dans les villes qu'il y ait des bus, qu'il n'y ait pas des trams ou des métros partout. Donc, il faut distinguer, je dirais, un droit général qui me paraît cohérent, je dirais, avec les valeurs générales de la société dans laquelle nous vivons, et puis l'actualisation de ces valeurs qui peut prendre des formes diverses.
Hervé Lebras.
Oui, moi, je ne crois pas qu'on puisse... demander que tout le monde ait un égal, toutes les personnes sur le territoire aient un égal accès. Certaines personnes choisissent d'aller vivre assez loin. Bien sûr, certaines sont prisonnières d'être assez loin, mais on ne peut pas là dire qu'il y a une égalité complète. C'est aussi, au fond, une sorte d'atteinte à la liberté individuelle, je dirais. Et puis alors, il y a un autre point qui est lié à ce que Jacques dit, et je crois que c'est un point important actuellement dans les transports, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est-à-dire que justement, les transports comme les tramways ou comme les RER, dans le cas de la région parisienne, soient très bien connectés aux transports de longue distance, comme les TGV ou les TER, parce que on ne compte pas tellement cela dans les temps de transport. Or, c'est un coût qui est assez... important, et quelque part des réflexions, par exemple des réflexions sur le Grand Paris avaient porté là-dessus. Je suis pas sûr que c'est des conséquences très très précises dans les années à venir, mais c'était un des points de réflexion.
Mais sur la question des petites lignes, par exemple, Hervé Lebras, une carte qui montrerait à la fois quelle est l'offre et quelle est la fréquence, oui, peut-être d'utilisation des trains, elle pourrait justement servir d'argument à ceux, alors soit à ceux qui disent il faut supprimer peut-être ces petites lignes, soit au contraire à ceux qui les défendent selon la façon dont elle est présentée. Est-ce que ça, c'est quelque chose de possible? Est-ce que quand vous faites l'un et l'autre justement des cartes, vous pensez à leur utilisation qui peut être faite sur le plan politique? Parce que c'est une façon de faire de la politique quand même.
Oui, mais je ne pense pas tellement dans le cas que vous citez. Parce qu'au fond, le cas que vous citez, c'est un cas relativement simple. Il y a quand même un nombre assez limité de lignes de chemin de fer. Vous pouvez les énumérer, vous pouvez les traiter, je dirais, statistiquement. Presque la question géographique peut devenir presque secondaire. En revanche, si vous voulez étudier la pauvreté en France, ou bien l'absence de diplôme, ou bien même des résultats électoraux, comme on l'a souvent fait avec Jacques, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez avoir des différences de présentation qui induisent des différences d'interprétation.
Eh ben, prenez un exemple peut-être, oui, Jacques Lévy, avec la question des déserts médicaux. Alors, il y a deux façons, il y en a sans doute d'autres.
Il y en a mille.
Il y a deux grandes façons peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, de présenter des cartes. Il y a la carte euclidienne, j'ai bien compris, et il y a le cartogramme. Expliquez-nous déjà peut-être les différences et en quoi... Par exemple, sur cette question des déserts médicaux, selon qu'on utilise une carte euclidienne ou selon qu'on utilise un cartogramme, on n'aura peut-être pas tout à fait la même lecture des inégalités territoriales.
Oui, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cartographie, c'est un langage ou une famille de langages. Et donc, on peut exprimer beaucoup de messages avec un langage. Hein. Donc, il ne faut pas confondre le langage et le message. Donc, on a... Comme avec le verbal, la question du désert médical ou des déserts médicaux, on peut l'exprimer de différentes façons, éventuellement controversées, les unes par rapport aux autres. Donc c'est aussi le cas avec les cartes. Dans l'Atlas politique de la France, effectivement, nous avions le souci que le jeu de cartes ne devienne pas un tour de cartes. C'est ça, je pense, notre éthique en tant que chercheur, c'est de mettre à la disposition des citoyens le maximum de potentialité d'explication, d'analyse, d'interprétation. Ensuite, c'est eux qui doivent décider. Mais nous, notre devoir, c'est de faire que, par exemple, ça ne soit pas dominé par des mythologies. Et c'est vrai que quand nous avons cartographié sur une carte euclidienne la présence des médecins généralistes...
Alors, carte euclidienne, c'est quoi ? C'est une carte à plat ?
Une carte classique. C'est-à-dire où un centimètre sur la carte correspond à une fraction ou une multiplication de ces centimètres sur le terrain. Donc les surfaces sont exprimées par des surfaces, les longueurs par des longueurs. Et donc à ce moment-là, on a la carte que décrivait Hervé Lebras, c'est-à-dire qu'on a les fleuves, on a les grandes villes. Donc en gros, la carte des médecins, c'est la carte de la population. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des creux, puisqu'il y a des endroits où il y a moins de gens. Mais si on fait un cartogramme sur la base de la population, c'est-à-dire que chaque centimètre carré ne correspond plus à une surface, mais à un nombre d'habitants, on s'aperçoit que cette carte, elle est extrêmement uniforme. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des médecins partout où il y a des gens. Avec quand même des nuances, mais ces nuances ne sont pas forcément celles qui sont mises en avant dans le débat public, puisque en fait, c'est vrai que le système médical avec les deux niveaux, secteur 1, secteur 2, pousse les médecins qui veulent gagner beaucoup d'argent à aller dans les bassins de population aisés et concentrés. Donc c'est vrai qu'il y a plus de médecins dans les centres et sur la Côte d'Azur, mais par contre, il n'y en a pas moins dans les campagnes que dans les banlieues.
Alors, Hervé Lebras, il est intéressant cet exemple parce que selon la présentation, on voit des déserts médicaux, ou bien ils disparaissent presque. En tout cas, ils sont considérablement atténués. Laquelle des deux cartes a raison ?
Ceci dit, si vous voulez, dans le problème de choix dans une carte, ce que vient d'exposer Jacques Lévy, c'est soit on donne la priorité au territoire, soit on donne la priorité à la population.
Si vous qui êtes démographe, vous devez préférer la deuxième solution, non ?
Il se trouve que non. Mais je vais vous dire qu'il y a une solution intermédiaire. Oui. Mais si on donne la priorité au territoire, c'est ce qu'on a appelé euclidien, c'est les cartes habituelles, si vous voulez, où on reconnaît bien la France. Si on donne la priorité à la population, c'est-à-dire que si on représente chaque commune ou chaque département ou chaque zone avec une surface proportionnelle à sa population, à ce moment-là, on fait ce qui s'appelle une anamorphose, dont Jacques est un des virtuoses, et on a une carte qui a l'air assez déformée, mais qui cette fois-ci représente les grandes masses. Donc dans le cas des médecins, c'est tout à fait juste. Ceci dit, dans le cas des médecins, c'est au fond la fréquence des médecins dans la population qui est à cartographier. Et là, les deux procédés commencent à se rapprocher. Et il y a un procédé intermédiaire que je défends depuis toujours, qui s'appelle le lissage. C'est-à-dire que il faut imaginer que quand il y a beaucoup de population, imaginez qu'on a un papier buvard et qu'on a des taches d'encre. Et quand il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'encre, donc les taches diffusent assez largement. Et à ce moment-là, on est un peu intermédiaire entre les deux procédures. Alors on peut dire ça a les défauts des deux. Moi, je pense que ça a aussi des qualités des deux.
Et c'est important de dire justement aux citoyens qu'il n'y a pas la vraie carte comme il y avait la vraie croix. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse aussi aux cartes lissées que fait Hervé Lebras parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles donnent un autre regard tout aussi vrai. Hein. La question, c'est la question des régimes de vérité. C'est-à-dire que si on essaye de manipuler l'information de façon malhonnête avec les cartes, c'est possible. Hein, mais il ne faut pas non plus dire que la carte est toujours fausse. Il y a eu une espèce de best-seller dans le petit milieu de la cartographie qui s'appelait « How to lie with maps », comment mentir avec des cartes. Et donc, cette vision complotiste, à mon avis, il faut la rejeter. Toutes les cartes, disons, faites avec honnêteté, elles apportent quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est les combiner, c'est toujours se demander quelle est la question à laquelle cette carte peut donner un élément de réponse. Et à ce moment-là, de toute façon, ça sera intéressant.
Si la carte n'est pas toujours fausse, on peut dire peut-être, Hervé Lebras, que la carte n'est jamais entièrement vraie.
Si, elle est entièrement... on peut le dire, pas entièrement vraie, mais elle montre un... Très souvent, elle va montrer un aspect de la réalité. Au fond, moi, j'en ai pris conscience, et c'est là que j'ai eu la meilleure expérience. Dans un autre domaine, pendant longtemps, j'ai été professeur dans une école d'architecture. Et le problème des architectes est de représenter les bâtiments qu'ils projettent de construire. Et aucune vue d'un bâtiment ne le représente entièrement. C'est pour ça qu'ils font des perspectives, des axonométries, et puis qu'ils font des plans masse, et puis ils font des façades, et ainsi de suite. Parce qu'ils savent bien qu'il faut montrer le bâtiment sous différents angles. Et pour la cartographie, au fond, c'est assez rapidement l'idée à laquelle je suis venu qu'il fallait montrer sous différents angles. L'exemple que vient de donner Jacques à propos, il a bien montré deux cartes. Si on était, pas à la radio mais à la télévision, on verrait qu'il y a deux cartes qui représentent le même phénomène et qui représentent deux aspects différents de ce même phénomène. Il y a même une époque, j'avais donné comme exercice à mes étudiants d'architecture de représenter le même bâtiment. L'un, une représentation par le type, l'architecte qu'il construit, donc ça doit être une représentation avantageuse, et l'autre par le comité de quartier qui ne veut pas qu'on construise ce bâtiment, et donc ça doit être une représentation, et selon l'angle qu'on prend pour faire une perspective, on arrive à l'une ou l'autre.
Oui, mais alors imaginons, je suis ministre de la Santé, Jacques Lévy, et vous me proposez vos Descartes qui ne disent pas exactement la même chose, hein, loin de là. C'est-à-dire, quelle est celle que je vais devoir utiliser, par exemple, si je veux améliorer la couverture de soins de la population ?
Avec mon groupe de recherche Coros, nous avons fait une enquête, enfin c'est Jean-Nicolas Fauchy qui l'a menée, pour voir quelles étaient les demandes des habitants ordinaires sur la carte hospitalière. Donc ça, il a fait ça en Suisse, dans un espace un peu imaginaire, générique, qui représentait à peu près l'espace suisse. Et il demandait aux gens, qu'est-ce que vous préférez comme localisation des hôpitaux ? Alors il y avait ceux qui voulaient que tout le monde soit à la même distance. Il y avait ceux qui considéraient que c'était quand même important qu'il y ait, par exemple pour les CHU, une certaine concentration, parce qu'il fallait une certaine masse pour les maternités aussi. Il y avait plusieurs types de cas. Et ce qui était frappant, c'était que si on instituait les simples citoyens, donc qui n'avaient aucune formation dans le domaine, en décideurs potentiels, en leur donnant tous les éléments concrets, c'était simplifié, on avait beaucoup travaillé pour qu'il y ait une interface facile, un jeu sérieux, comme on dit. Finalement, ils étaient capables. Et ils étaient capables de le faire aussi à enveloppe constante. Très peu ont demandé qu'on prenne de l'argent ailleurs. Donc je pense que, pour répondre à votre question, si on veut faire ça bien, lançons un grand travail de prospective participative, interactive. Et à ce moment-là, les gouvernants, ils auront avancé parce qu'il y aura eu plein d'idées qui seront venues. Et ils auront aussi avancé pour obtenir un consensus bien meilleur que si on fait le contre-exemple absolu, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un truc qui tombe d'en haut, technocratique, après on l'impose, après ça crée des résistances. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, notamment avec la carte, parce que en fait la carte, il faut un peu apprendre à la lire, à s'en servir, à en fabriquer, mais c'est quand même pas impossible, il n'y a pas des prérequis énormes, surtout que maintenant, avec le numérique, on peut vraiment faciliter le travail. Donc en fait, je pense que la carte pourrait être complètement inversée. Au lieu d'être un élément mythologique entre les mains des détenteurs du pouvoir, ça pourrait être vraiment un outil démocratique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en France, pour prendre un terme anglais, on pense très souvent selon le mode top-down, c'est-à-dire ça part du sommet puis ça redescend. C'est un peu la question que vous posiez du ministre. Et ce que développe Jacques, qui est d'ailleurs plus suisse que français, c'est ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire on part de la base. Mais dans les deux cas, il faut aussi arriver à préciser les critères, parce que vous n'aurez pas du tout la même décision selon le critère que vous prenez en compte. Il y a eu un très bel exemple il y a une cinquantaine d'années, quand il y a eu le choix entre le TGV pour Paris-Lyon et l'autoroute A6. Et l'autoroute A6 l'a emportée parce qu'elle était moins chère. Mais les tenants du TGV ont dit l'autoroute va tuer plus de monde que le TGV. Donc si on avait pris comme critère l'espérance de vie ou bien l'économie en vie humaine, on aurait choisi le TGV. Donc ce qui est très important, avant même de faire la carte, c'est de discuter du critère, notamment dans le cas des hôpitaux, le critère de proximité, le critère de temps d'accès à une maternité, doit être pris en compte. Or, quand c'est décidé par le sommet, sommet. Le sommet impose son critère, qui en général est un critère, je dois dire, assez souvent rudement et massivement économique.
Il y a aussi un critère que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, Hervé Lebras, qui est celui de ce qui existe déjà en termes d'organisation administrative. Si je devais peut-être trouver un peu de dissension entre vos deux approches, j'ai l'impression que vous, Hervé Lebras, vous tenez quand même compte de ce qu'est l'organisation administrative du territoire, avec notamment des départements, des régions, alors que Jacques Lévy, vous partiriez peut-être plutôt de bassins de population, mais qui pourraient ne pas correspondre exactement aux délimitations qui sont celles de la carte administrative française. Est-ce que je me trompe un peu,
Jacques Lévy? Je ne sais pas si on diverge, en tout cas.
Les départements, par exemple. Oui. Les départements, est-ce que ça vous semble, vous, Jacques Lévy, une bonne façon d'organiser le territoire et de penser justement la répartition des services publics sur
les départements? C'est comme les petites lignes et le statut des cheminots et la FNSEA, c'est des buts témoins d'une France d'autrefois. Donc la question est de savoir si on...
Donc c'est une façon de dire que on c'est assume pas quelque chose qu'il faut
l'inertie,
garder.
L'inertie, c'est-à-dire est-ce qu'on assume le fait que le futur c'est l'inertie du passé ou est-ce que on se donne les moyens? C'est pas toujours pertinent. Hein. Parfois c'est tellement lourd de changer qu'il vaut mieux ne pas toucher à ce qui existe, mais il me semble dans ces cas-là, ça serait quand même plus utile si on a pour objectif le développement de la France et le développement des sociétés qui sont en France, à ce moment-là, ça peut valoir la peine, par exemple, d'avoir des gouvernements urbains avec une compétence, avec des moyens.
Vous parlez d'espaces locaux.
Voilà, les espaces locaux qui ne correspondent... Oui, mais par exemple, regardez ce qui se passe à Marseille. En gros, l'espace local, c'est-à-dire la métropole ex-Marseille, correspond quasiment au périmètre du département des Bouches-du-Rhône. Donc, ça serait assez logique que ça soit un organisme politique qui soit construit pour gérer une grande ville avec ses problèmes spécifiques et non pas comme le département avait été recréé en réalité en 1875 pour permettre qu'on finance la survie de communes rurales qui se dépeuplaient avec l'argent des contribuables urbains. Ce n'est plus du tout le problème. Donc, c'est vrai que par moment, je pense qu'il vaut mieux adapter la structure administrative aux enjeux politiques. C'est d'ailleurs le problème dans beaucoup de pays. C'est pas le propre à la France. C'est difficile de changer l'architecture administrative partout. Et donc, c'est une cause aussi de recul, de prise en compte des enjeux politiques par les structures politiques face aux demandes de la société. Donc, c'est un problème incontestable. Je pense qu'on est assez d'accord sur
le
point,
mais
on va le voir. Ouais.
Oui. D'abord, la façon dont nous faisons des cartes l'un et l'autre, c'est les limites administratives, on cherche à s'en affranchir en général. Moi, si je fais des cartes qu'on appelle lycées, c'est parce que je pars du niveau le plus fin. Ce que j'ai en général, c'est les communes, mais il y en a quand même encore maintenant presque 36 000. Et puis ensuite, lissage fait disparaître toutes les frontières. Et les frontières, moi, quand je les dessine, ne servent qu'à se repérer sur la carte, parce que on a cette vieille mémoire du découpage des départements qui est lié à l'histoire même en 1791 de la création des départements. Donc c'est pour nous, disons, la cartographie doit s'affranchir des limites administrative la plupart du temps, parce que la réalité des mœurs, c'est comme le nuage de Tchernobyl, les mœurs ne s'arrêtent pas aux frontières administratives. Ceci dit, il y a une autre partie de votre question qui est les niveaux administratifs. Et je pense là, effectivement, qu'il y a peut-être une divergence. Je pense que selon le niveau, on peut privilégier tel niveau existant ou tel autre, ou en créer d'autres. C'est tout à fait juste qu'il faut créer un niveau métropole et que la France, dans les années récentes, a été incapable d'articuler un niveau régional et un niveau métropole. Mais si on descend plus bas, je reste un défenseur du département pour le niveau social. Parce que quand vous faites une carte des différences sociales en France, des inégalités, c'est les départements qui apparaissent. C'est-à-dire le centre du département est toujours plus riche, plus éduqué. Et puis plus vous vous en éloignez, vous arrivez aux frontières du département, c'est là que ça va le plus mal. Donc ça permet de gérer du social. Mais si c'est l'économie, s'il faut gérer le développement économique, c'est surtout pas le département, c'est les régions. Si on veut gérer des services locaux, d'assainissement, de distribution des eaux, faut descendre d'un cran, c'est les intercommunalités. Donc quelque part, il y a une sorte de fausse querelle, me semble-t-il, avec cette histoire du millefeuille. La vraie chose, c'est de voir quel est le meilleur niveau pour chacune des activités que l'on mène sur le territoire. Et le problème de la France n'a pas été le problème de la multiplication des couches du millefeuille, c'est le problème que toutes veulent s'occuper de tout. C'est ce qu'on appelle la compétence générale. Et là, cette compétence générale, vous pouvez voir, elle est supprimée depuis maintenant une vingtaine d'années par chaque loi et rétablie en douce par le Conseil d'État, très souvent d'ailleurs, 6 mois ou 1 an après.
Alors, par rapport à ce que vous venez de dire l'un et l'autre, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, justement, le territoire est relativement bien organisé en fonction des différents niveaux et des objectifs qui sont assignés à chacun d'entre eux? Jacques Lévy, vous dites non, de la tête.
Non, parce que quand même, je trouve, alors là, il y a peut-être une petite divergence, même si je suis tout à fait d'accord avec le raisonnement qui a précédé ce que vient de dire Hervé, il y a quand même un peu trop de niveaux, il me semble. En Ile-de-France, il y en avait 3, maintenant il y en a 5. On peut quand même avoir des doutes sur le fait que ça soit plus efficace. Je pense que...
Et ça, les cartes permettent justement de justifier le fait qu'on réduise le nombre de niveaux?
Les cartes, ça dépend ce qu'on met dans les cartes. Disons que ce qui est vrai, c'est que... la carte, pendant toute une période, c'était en fait l'État central qui l'a fabriquée parce que c'était un peu le champ opératoire, le point d'application de sa politique, dans une logique où en fait il était le seul à faire de la grande politique. C'était ça le compromis de la Troisième République. C'était moi je fais la grande politique à l'extérieur mais aussi à l'intérieur et vous êtes tous les autres niveaux, vous êtes des corps intermédiaires. C'est-à-dire que vous allez en fait avoir pas mal de pouvoir, mais pas du même genre que moi, l'État. Vous allez pouvoir revendiquer des choses, vous allez pouvoir camper au sein de l'État, et de même qu'il y avait des corporatismes d'État avec les syndicats, les chambres de commerce, les grands corps, il y avait aussi un autre corporatisme d'État qui était celui des communes, des départements. Et ce qui est en train d'émerger, c'est que il y a des niveaux de société qui sont pas seulement au niveau national. Il y avait une approche monoscalaire, c'est-à-dire le dire, il n'y a qu'une seule société, c'est au niveau national. Il n'y en a pas en dessous, pas au-dessus. Donc on ne reconnaissait pas les responsabilités internationales, sauf pour faire la guerre. Et en dessous, ce n'était pas du même niveau que l'État. Aujourd'hui, on accepte, pas toujours en le disant, mais enfin... peu à peu, l'idée qu'il y a des niveaux de société, le niveau local, c'est une société. Il y a des sociétés locales. Il y a peut-être des sociétés qui peuvent s'organiser au niveau régional. L'Europe, c'est aussi une société en émergence. Le monde aussi. Et donc, comme il n'y a plus la guerre, comme on ne donne plus son sang pour l'État français, eh bien, ça relativise aussi le niveau national. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu. C'est pas tellement le nombre de niveaux, c'est le fait que les niveaux vont davantage se ressembler avec, effectivement, la nécessité d'une division du travail pour que tout le monde ne fasse pas tout, mais finalement entrer dans une logique plus ou moins fédérale en acceptant peut-être une certaine différenciation, c'est-à-dire que la Corse demande des choses que ne demande peut-être pas l'Aquitaine ou l'Occitanie. Pourquoi ne pas en tenir compte? Pourquoi ne pas accepter, après une uniformité inégale, une différenciation égale?
Oui. Sauf que cette différenciation, ça conduit forcément à modifier justement une répartition des pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qui est toujours très compliqué, Hervé Lebras. C'est-à-dire revoir une carte, soit des services administratifs, soit une carte électorale. À chaque fois, il y a des enjeux de pouvoir derrière qui sont
importants. Oui, pour les cartes électorales, mais sur la carte administrative, c'est aussi quel est au fond le degré de liberté d'action des différents niveaux. Et actuellement en France, ce degré est quand même très faible. Si vous prenez les départements, 80% de leurs dépenses sont complètement contraintes puisque les tarifs sont fixés par l'État pour l'aide aux personnes âgées, pour le RSA, pour tout ce dont s'occupe socialement le département. Ils ont une très petite marge d'action. Donc ce que disait Jacques est tout à fait exact. C'est il y a eu un temps pour la construction de l'État français. C'était un temps nécessaire parce que quand la France a émergé à la fin du XVIIIe siècle, c'était le pays le plus divers d'Europe. Alors on me dirait tous les pays sont divers. Eh ben non. Et c'est Brodel l'avait bien remarqué. C'est le seul pays d'Europe où les traditions du Nord de l'Europe du Nord et les traditions de l'Europe du Sud se rejoignent. Il faut arriver à les faire coexister. Il faut se souvenir que dans la carte d'Abel Hugo, qui date à peu près des années 1860, moins de la moitié des Français parlent français. Donc il y avait un problème d'unification, et là, l'État-nation français, je trouve, a très bien réussi. Mais il est emporté par son élan, ça y est, maintenant l'unité est faite, on est même bien plus unis que nos voisins. On n'a pas l'heure, il y a les Corses, vous me direz,
si l'unité est faite, quel intérêt alors justement de repenser
l'État l'État peut repenser, peut dire, ben voilà, maintenant qu'elle est faite, laissons un petit peu de liberté aux différents échelons. Là, on ne traite pas le chômage de la même façon en Vendée, où le taux de chômage est de 7%, où le taux de sans diplôme doit être jeune, doit être aussi de 5 ou 6%, et puis le Languedoc, où le taux de chômage doit être de 14%, et la proportion de sans diplôme de 16%, c'est pas du tout les mêmes problèmes qu'on laisse un petit peu maintenant. On n'a plus de peur que l'État se désagrège. Je laisse de côté le cas Corse, et encore, je suis pas très inquiet là-dessus. Les Corses ont tout à fait intérêt à la redistribution. Un de nos amis a écrit un excellent livre pour montrer comment, en plus de ça, l'État redistribue. Mais il redistribue un peu à la manière dont on donne de l'argent pour le développement. C'est-à-dire, on donne de l'argent, mais on leur dit, vous acheterez ceci, cela, cela, et vous acheterez français surtout. Eh bien, de la même manière, l'État donne et redistribue très largement, notamment ce qui est gagné dans les régions les plus riches, comme la région parisienne, mais il indique comment on doit le dépenser. C'est là qu'il doit y avoir un changement, c'est-à-dire on doit laisser de plus en plus de latitude, et on ne va pas dans ce sens. On a parlé récemment de recentralisation de l'État. On voit qu'il y a une très faible autonomie locale, et je pense que ça crée de plus en plus de problèmes, parce que les problèmes sont de plus en plus différents.
Parce que aussi, ce n'est pas du tout efficace en termes de développement. Je pense qu'il y a ça en arrière-plan. On dit que l'État est de moins en moins généreux, mais en réalité, la dépense publique, c'est plus de 50% du PIB en France. Et le PIB a lui-même augmenté. Donc, c'est pas juste de dire qu'il y a de moins en moins de flux d'argent public. En revanche, ce qu'on voit, c'est que il y a du mal développement en France. Si on prend les anciennes régions, il y en a que deux ou trois qui ont un PIB par habitant, donc une productivité supérieure à la moyenne de l'Union européenne, avec aussi la Bulgarie, la Roumanie, enfin je veux dire des pays qui viennent de loin. Et il y a deux ou trois régions qui sont au niveau de la Martinique en termes de PIB par habitant. Donc ça veut dire que...
Et ça, est-ce qu'un redécoupage peut permettre d'atténuer ces différences, ou bien c'est le pouvoir qu'on donne à chacune de ces entités?
C'est pas un problème de découpage, c'est un problème de relation entre liberté et responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, on avantage l'émergence de sources, ou bien la présence d'un robinet sous lequel on va se placer pour avoir le maximum de débit. Et jusqu'à présent, finalement, rien n'encourageait les lieux, que ce soit petits ou moyens, c'est-à-dire locaux ou régionaux, à produire du développement endogène, puisque en fait, le flux d'argent public qu'ils allaient recevoir n'était absolument pas dépendant des initiatives, des productions, des créations qu'ils allaient faire. Donc, à mon avis, c'est plutôt là, en fait, qu'il faut jouer. Donc, accepter une différenciation, mais sur la base, finalement, d'un contrat, comme un peu ça se passe dans les pays fédéraux. Au Bundesrat, on discute, finalement, d'engagements communs entre les Länder et l'État fédéral. Et je pense que c'est là... Le discours d'Emmanuel Macron, encore, c'était intéressant, parce qu'il leur a dit, mais OK, d'accord, plus de liberté, plus de responsabilité. Par contre, ce que vous ne pouvez pas dire, c'est nous, on veut l'argent des autres pour faire quelque chose dont on ne discutera pas avec vous, avec notamment le fait de priver les citoyens français et européens du droit d'avoir, par exemple, d'accéder au sol. Encore, ça c'est pas acceptable, effectivement. Mais en revanche, le fait de donner plus de liberté pour fabriquer du développement endogène, à mon avis, c'est ça l'horizon.
Puisque vous avez évoqué les citoyens européens, et pour terminer, il y aura dans quelques mois des élections européennes, Hervé Lebras, avec la décision de faire une circonscription unique, qui sera donc une circonscription nationale. Est-ce que ça vous paraît, alors puisqu'on parle de carte, et là en l'occurrence de carte électorale, le bon niveau pour ce genre d'élection, et quelles difficultés ça va procurer peut-être pour lire les résultats derrière?
Alors, non, les résultats, nous, quand on les traite avec Jacques, on les a par commune. Donc, au contraire, là, de ce point de vue-là, que ça soit... Oui, ça ne change rien. En plus de ça, c'était une aberration, ce découpage en circonscription européenne. Les circonscriptions ont un sens si, par exemple, pour les législatives, le député est connu des personnes qui votent pour lui. Personne n'était capable de donner le nom de son député européen. Donc là, ça m'apparaît quelque chose de bon sens. D'autre part... Ça évite ce qu'on peut appeler quand même, parce que la cartographie électorale, il y a ce que nous faisons qui est l'interprétation après coup, mais ceux qui font les découpages, ça s'appelle très souvent le tripatouillage électoral.
Le charcutage.
De dire le charcutage.
Voilà, là, avec une seule circonscription, a priori, il ne peut pas y avoir de charcutage.
Eh ben,
voilà,
ça va
nous expliquer comment. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Jacques Lévy et Hervé Lebras. Je précise à nos auditeurs et nos auditrices qui se trouveraient peut-être au Japon qu'il y a une exposition qui vous est consacré en ce moment, Hervé Lebras, à l'Institut français à Kyushu. Elle est à Kyushu en ce moment.
Oui.
Voilà, c'est au Japon qui raconte justement votre passion pour les cartes.
Elle a commencé à Tokyo, puis elle circule dans tout le Japon.
Oui, voilà.
Tout à fait.
Et donc actuellement Kyushu. Voilà, si jamais vous y rendez, ben, allez voir cette expo. Merci à toute l'équipe du grand Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Zolt Sicar, Antoine Dulster, Prune Cérez. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Élise Leuf.